pas ça. Ça va pas. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ est là. Christ reviendra. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le cep, nous sommes les sarments. Un cep, dans une terre aride, échauffée, brûlée par le soleil, peut aller chercher l'eau jusqu'à 60 mètres de profond. Un figuier jusqu'à 80 mètres de profond. Seigneur, tes ressources sont inépuisables. Tu es comparé au figuier, tu es comparé au pied de vigne, au cep dans la Bible, Jean chapitre 15. À côté de nous, beaucoup d'arbres sont en train de souffrir de la chaleur. Et s'il ne pleuvait pas pendant encore 3-4 mois, ils périraient tous. Ils seraient atteints de graves maladies, ils périraient même dans les 2-3 années qui viennent. Mais le cep résiste. Le cep a une ressource infinie, incommensurable. Oui, Seigneur Jésus, tu puisses ta vie dans l'Esprit de la Trinité, l'Esprit Saint. Tu viens d'en haut, tu ne viens pas de la terre. Et tu es rempli de plénitude, de gloire, de sagesse, de sainteté. Tu es la vie par excellence. Aussi, nous voulons être tes sarments. Nous voulons que notre cœur soit attaché à ton cœur, à ton âme, à ton esprit. Nous voulons que tu sois notre autorité, notre guide, notre berger, notre conducteur, notre ami, notre frère, notre grand frère. Que tu sois notre intermédiaire entre le Père du ciel et nous, car tu es précieux pour nous. Tu as donné ton sang à la croix pour nous. Tu as un amour infini pour nous, tu l'as démontré, et tu es vivant au siècle des siècles, tu as autorité sur Satan. Tu as autorité sur les puissances mensongères qui sont en train de mener ce monde à la ruine. Tu as autorité, même s'il arrive les pires fléaux économiques ou matériels, nous pouvons nous reposer sur toi et être gardés par toi. Et nous voulons, Seigneur, comme tu l'as promis, être de ceux que tu enlèveras, que tu feras échapper au fléau de la tribulation qui sont dans Apocalypse du chapitre 6 au chapitre 18. Nous voulons échapper à cela. Notre refuge est en toi. Notre refuge n'est pas sur terre, Seigneur. Il est en toi. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon Seigneur, le rocher, la forteresse. J'ai un peu déraillé, je suis fatigué, j'étais au soleil, excusez-moi. Cette nuit, j'ai été réveillé à 3h moins quart par le Seigneur. J'ai été dormir à 10h30 et j'étais réveillé à 3h moins quart, 2h30 par le Seigneur. Je devais me relever. Et ça arrive souvent, parfois je dois prier, le Seigneur me pousse à prier pour des... Il me dit dans mon âme, dans mon cœur, il y a dans un pays ou deux, il y a des gens qui sont en train d'être tabassés, violés, massacrés à cause de mon nom, prie pour eux, intercède pour que mes anges soient autour d'eux, pour que les ennemis s'arrêtent, soient arrêtés. Clairement, cette nuit, c'était pas ça. C'était l'image d'un homme qui est arrivé à l'imprévu hier. Au moment où des amis de Paris viennent avec leurs enfants et arrivent, bien sûr, on est un petit peu secoué dans tous les sens. C'est pas vilain, hein. D'ailleurs, c'est très agréable d'avoir des amis qui viennent avec leurs enfants ici au camp. Mais il arrive un homme qui était sur le bord de la route et avec sa bouteille vide. Et en fait, il était du Kazakhstan. C'est un chauffeur de camion et son camion était arrêté à 1,5 km d'ici. Il tenait une bouteille vide et à l'entour de l'usine et dans les villages, il n'y a plus de fontaines. On a supprimé ces fontaines parce que chacun a son robinet chez soi. Pour moi, c'est un grand dommage quand il n'y a plus les fontaines où on peut s'abreuver, des fontaines d'eau potable. Parce qu'ici en Meuse, en Meurthe-et-Moselle, à côté, dans les villages, à force d'avoir mis des pesticides et des engrais, c'est mis eau non potable partout. Nous avons encore la forêt ici, nous avons beaucoup de sources où on peut aller s'abreuver, l'eau est potable. Mais à notre robinet, il a fallu conduire cet homme, il parlait un petit peu anglais, derrière la maison, remplir sa bouteille. Et puis j'étais affairé, j'ai pas été plus loin dans ma réaction. Mais pendant la nuit, le Seigneur m'a repris et il m'a dit, tu sais, tu lui as donné de l'eau, mais tu aurais dû lui donner une Bible en russe. Il vient du Kazakhstan, c'est un ancien pays satellite, et il a besoin de mono vive. S'il revient encore dans la région, je te guiderai vers lui. Va quand même voir au matin s'il n'est pas là. Donc je suis parti au matin avec ma voiture pour voir s'il n'était pas là. J'avais une Bible. Dans notre armoire de l'église, il y a des Bibles dans toutes les langues. Et j'avais une Bible en russe pour lui donner. Vous savez, dans notre zone occidentale, les États-Unis, le Canada, c'est l'anglais. Mais pour des centaines de millions de personnes, la langue véhiculaire entre les pays, entre internationaux, c'est le russe. Et ça, il ne faut pas mépriser la langue russe, il faut l'aimer. Et il est bon que des chrétiens parlent le russe. Nous avons eu tellement de gens chez nous. À une époque où il y avait 35 personnes dans la maison, y compris notre famille, il y avait 14 russophones de différents pays satellites. Leur langue entre eux était le russe. D'ailleurs, dans notre église, pour le moment, il y a Alexander qui parle russe, anglais, néerlandais, français, ukrainien. Et il y a au camp ici un jeune homme d'origine géorgienne, il parle russe et géorgien. Et il y a une ukrainienne qui parle russe et ukrainienne. Leur langue, entre eux, c'est le russe. Et donc, j'ai pensé, c'est le Seigneur qui m'a fait penser, et j'ai demandé pardon. Parce que j'étais superficiel. J'ai réagi trop vite. C'est une âme. C'est pas seulement un œsophage qui avait besoin d'eau. C'est une âme qui a besoin de l'eau vive, comme la Samaritaine. Et j'étais superficiel. Si je suis serviteur de Dieu, eh bien, je vais vous dire, parfois c'est lamentable. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis levé pour prier, demander pardon, et pour me corriger de cette superficialité qui revient toujours. Qui est l'ennemi du ministère. La seule autorité que nous avons, c'est le Saint-Esprit et sa parole, la parole de Dieu. Si nous ne nous laissons pas conduire en profondeur dans nos réactions, nous loupons, nous ratons notre mission à tout instant, dans toutes nos rencontres. Il faut être animé d'un zèle ardent, d'une très sainte foi, qui est conduite par le Saint-Esprit et la parole. Mais nous sommes de nature faible et il nous faut parfois nous repentir et demander pardon. Surtout, Dieu est bon. Dieu est bon puisque, me poussant à me relever et à prier, je n'ai pas été redormir. Il fallait adorer le Seigneur et intercéder pour beaucoup de personnes et puis aller travailler dehors, il fait frais, il fait bon, et puis dormir dans l'après-midi. Mais ce qui a jamais seul. Mes amis, ne soyez jamais seuls. Soyez là pour Christ, où vous êtes, en face de n'importe qui, soyez là pour Christ, avec Christ, en Christ. Ne soyez pas des chrétiens médiocres. Je l'ai été hier, je le confesse. J'ai ce visage dans ma mémoire et je n'aurai de cesse de prier pour cet homme. de le revoir. Beaucoup de Lituaniens, d'Estoniens et d'Ukrainiens sont passés avec des camions ici sur la zone industrielle. Et j'allais souvent, j'ai été pendant des années, toquer aux portes des camions très tôt le matin, avant qu'ils démarrent, et leur donner une Bible en russe. Il arrive qu'il y ait un menuisier ici à 30 mètres, et ce sont des camions polonais qui viennent, ou allemands. Et là, parfois je m'encours, je vais donner une Bible en polonais ou en allemand. Mais hier, c'est malheureux. Cet homme mérite d'être sauvé. Cet homme est aimé de Dieu. Et pourquoi moi je ne serais pas aimé comme Christ, en Christ? Vous voyez qu'il faut toujours se remettre en question. Et ce n'est pas qu'il faut. C'est comme ça que le Seigneur le demande. Ce n'est pas une question de règlement. C'est une question d'amour. D'amour, de vie spirituelle. Et dans cette dimension de vie spirituelle, on est toujours repris parce que le seul qui aime parfaitement, le seul qui voit clair parfaitement pour le salut des âmes, c'est Dieu. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé trois fois, deux ou trois fois de l'épître de Jude. Et il est clair que il y a un sujet qui est scabreux, c'est celui des hommes qui se sont glissés, ou des femmes qui se sont glissées dans les églises, au verset 4, épître de Jude, dont la condamnation est décrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Dérèglement azelgia, c'est-à-dire toute forme de désobéissance, petite ou grande, à la volonté de Dieu, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes. Et j'ai repensé à notre petite assemblée, elle est petite, on est peu nombreux, et l'histoire de notre assemblée, j'ai repensé. Et j'ai vu des cœurs épris d'eux-mêmes. Ils avaient la Bible, ils ont dit croire en Dieu, ils ont confessé Jésus-Christ, je les ai baptisés, ou ils ont été baptisés autre part, et pourtant, ils marchent sur les pieds à Jésus-Christ tous les jours. C'est leur ego qui commande. Donc, ils renient leur seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils font une symbiose entre eux, une forme de syncrétisme, entre leur moi-je, qui vient d'Adam et Ève, de la chute, du péché, et Jésus-Christ. C'est impossible. Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 5, que ton oui soit oui au Seigneur Jésus, oui à Jésus, oui à l'œuvre du Saint-Esprit, à sa parole, que ton nom soit non. Non au péché et non aux ruses de Satan. Et tout ce qui est entre les deux vient du malin. Donc clairement, c'est arrivé souvent que même une demi-heure après avoir baptisé quelqu'un, l'Esprit Saint m'a montré « Jean, tu t'es trompé sur la personne, elle t'a dupé. » Ou 2 jours après, ou 6 mois après. Et quand je vois les actes des apôtres, avec Simon le magicien, qui avait bien dupé, et qui voulait donner de l'argent pour avoir des pouvoirs, à Pierre, Jacques et Jean, alors qu'il avait été baptisé par eux, je vois Ananias et Zéphira. Ananias et Zéphira, c'est quelque chose de courant actuellement dans les églises. Il y a des gens qui ont des très bons comptes en banque et ils sont apparemment généreux à l'offrande dans les œuvres chrétiennes. Oh, on ne peut pas se passer d'eux, ils donnent 300-400 € par mois ou ils donnent 150 €. Et le comptable dit à l'ancien, écoute, fais attention avec eux, parce que si on les perd, on perd ça tous les mois. Sur une année, ça fait beaucoup d'argent. J'ai toujours dit à celui qui faisait les comptes, on ne regardera jamais à ça. Jamais. Il vaut mieux être pauvre que d'entretenir la ruse d'Ananias et Séphira. Et il faut avoir la rigueur de ne pas se laisser duper, mais on se fera quand même duper. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, il y a du blé et de l'ivraie dans le même champ, et des boucs et des brebis. Donc, comme on n'est pas Dieu, on se fait régulièrement avoir. Mais ce qu'il y a, Dieu triera les brebis et les boucs, le blé et l'ivraie. C'est son boulot, c'est pas le nôtre. Alors, les hommes se sont glissés. Le mot glisser, ça veut dire, vous savez, je pense souvent La porte est fermée, quelqu'un glisse une enveloppe sous la porte. Ça glisse. Et on finit par faire rentrer l'enveloppe dans la maison. Moi, quand je vais à la banque, j'ai des virements et des fois la banque est fermée. C'est une porte électrique, mais j'arrive à glisser l'enveloppe et quand le fonctionnaire arrive au matin, il prend l'enveloppe avec les virements. On peut arriver à introduire dans une église, même qui est prudente, même qui est dont les portes semblent bien fermées à l'ennemi, à Satan, on peut, d'une manière ou l'autre, voir quelqu'un s'introduire dans l'église pour des buts pervers. Un jour, j'avais été chercher des personnes et sur le parking de l'église, j'arrive le dernier. Le culte avait commencé, d'autres président, etc. Les chants étaient en route. Donc, ce monsieur est arrivé avec une grosse voiture et m'embrasse, bonjour frère, etc. Il était tellement spontané, il m'aurait presque sauté au cou. Et donc, je me suis laissé faire en quelque sorte, en me disant, je l'ai déjà vu quelque part. Et durant le culte, je pense que à une réunion de chrétiens, un an avant, à Thionville, sur un terrain de football, je l'avais vu et le Seigneur m'avait averti. Je voyais sur lui un nuage noir. Bizarre que le Seigneur me fasse des signes comme ça. Et je voyais un chien très agressif avec lui. Je me suis dit, le Seigneur m'a montré quelque chose que peut-être les autres ne voient pas, mais moi je dois le voir. Il arrive à l'église et donc il est très sympathique avec tout le monde. Le lendemain, je me promène dans le village, je vais au magasin vers 11h du matin et je le vois passer et il me dit, oh, j'ai déjà été rendre visite à tel et tel. Il avait déjà fait 3-4 chrétiens de notre assemblée. C'était un monsieur qui était architecte. Ce qu'il prétendait. Et ce monsieur, qui avait déjà visité 3-4 chrétiens sur si peu de temps de notre église, ça m'intriguait. J'ai dit, tu ne veux pas venir à la maison, on va prier ensemble. Et lorsqu'on priait, c'est peut-être bizarre, chers amis, mais le Seigneur me donne des avertissements. J'entendais des, comme les chiens qui marchent sur un tapis, sur du carrelage, des griffes sur le carrelage. Je vais voir dehors, pas de chien, dedans, pas de chien. Alors, comme j'ai étudié les textes, je sais très bien qu'à un moment donné, il y a des mots, des bêtes sauvages. C'est en fait dans les textes d'Ésaïe, mais dans la Bible de Septante, dans d'autres textes, c'est démonion. Et c'est traduit bête sauvage. Et je lui dis, comment que ça se fait que les démons viennent avec toi ici dans notre église? Il n'est plus jamais revenu, je l'ai prié de ne plus revenir. Et je vais vous dire, il avait été dans 3 églises évangéliques, en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Il était resté tout un temps et il avait fait des articles dans les journaux. Il avait dilapidé les chrétiens. Et ce monsieur, qui était architecte, achetait des maisons à des personnes âgées, à des personnes assez riches. Il leur promettait un revenu sur les nouveaux bâtiments créés, 10, 15, 20 appartements, un revenu. Mais en fait, elles étaient grugées, elles étaient trompées. D'autre part, il avait 2 femmes et des enfants de 2 femmes. Voilà ce monsieur qui m'appelait frère et qui venait spontanément à l'église et qui voulait sympathiser avec tout le monde. Vous voyez à quel point quelqu'un peut se glisser dans l'église sous un visage sympathique. Comment se fait-il que le Seigneur m'a averti? Comment se fait-il que le Seigneur m'a donné le regard et pour le comprendre? Je vais vous dire, chers amis, il n'y a pas de secret. Je n'ai pas plus ni moins que vous. Il faut passer des heures dans la prière et dans la parole de Dieu. Et tout quiconque a une responsabilité dans une église, même le chrétien le plus modeste, il doit passer du temps dans la prière. Car même le chrétien le plus modeste peut avoir des antennes comme les hannetons et voir quelque chose que l'ancien ou le pasteur ne voit pas. Et s'il est guidé par le Seigneur, il va aller avertir le pasteur ou l'ancien. C'est ça une église. Elle est riche de l'intelligence de Dieu et pas de l'intelligence humaine. Les neurones humains sont bien trop faibles, trop médiocres pour voir les ruses de Satan. Il faut avoir les yeux ouverts sur les ruses de Satan pour nos églises. Et c'est ça que tous les apôtres font dans leurs épîtres. Aujourd'hui, une église ne tient pas parce qu'elle a une bonne théologie. C'est nécessaire. Mais elle doit avoir une très bonne expérience de la vie spirituelle. Parce que les temps vont devenir très durs. Dehors de l'église, mais peut-être dedans. Peut-être plus dedans que dehors. Alors, le mot glisser, vous comprenez bien, je peux donner des autres exemples. Mais c'est un exemple flagrant où le Seigneur m'a averti. C'est arrivé d'autres fois. Une autre fois, c'était à Jérusalem. J'étais au Garden Temple. Je suis resté quelques heures dans le tombeau à prier, à genoux. Et puis, je suis sorti. Je me suis assis sur un banc et je regardais le tombeau, la pierre ronde, la rigole dans laquelle elle roulait. Et puis, je regardais comment les gens rentraient. Ils avaient toujours tous peur de rentrer, surtout les femmes. Et elles attendaient leurs hommes pour aller voir dedans. Et j'étais sur un banc, je lisais tous les récits de la Passion. J'ai passé la journée là, en me disant, Seigneur, si je ne reviens plus jamais, je veux méditer ce grand sacrifice et cette noble résurrection que tu as vécue pour nous, qui nous donne la porte ouverte pour le ciel. Ouvre mon intelligence sur les textes de la Passion et de la résurrection, s'il te plaît, Seigneur. Toute la journée, comme un petit chien au pied de son maître. Quel bonheur, les amis! Comme un serviteur qui regarde la main de son maître, ou une servante. Il y a un psaume, une servante qui regarde la main de sa maîtresse. Tous ces textes étaient formidables. À un moment donné, dans la prière, je souffrais de beaucoup de problèmes dans l'assemblée, qui étaient beaucoup plus nombreuses que maintenant. Le Seigneur, dans mon cœur, me dit ceci, « Jean, tu ne dois plus porter ta responsabilité selon tes sentiments, selon ton cœur. L'Église pour laquelle tu t'es battu et qui est fondée est à moi et pas à toi. Cette Église, c'est mon épouse. Défends mon épouse. Tu sais très bien que je suis l'agneau de Dieu et le lion de Juda. Et donc, dans ton caractère, le côté de l'agneau et le côté du lion. Quand tu retourneras en Belgique, tiens compte de ce que je viens de te dire. » Chers amis, dans toutes les églises, il faut cela. Il faut cela. C'est une expérience que je vous ai partagée, qui est pénible, parce que j'ai beaucoup souffert de beaucoup de choses. Mais le Seigneur est grand. Il aime ses enfants et il aime son Église. C'est son épouse. Si nous aimons Christ, nous devons aimer son épouse. Et nous devons être à la fois agneau, on se sacrifie, et lion, on se bat. Alors, vous voyez dans ce texte, il y a beaucoup de choses sur peu de versets. Allons au verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, donc c'est des gens sans doute très instruits par les apôtres et par la Bible, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Effectivement, quand Moïse descend du Sinaï, 7000 vont périr. Et puis ensuite, dans le désert, avec les serpents, plus de 40 000. Et puis ensuite, parce qu'ils ont mené une vie licencieuse au niveau sexuel, avec les filles et les jeunes gens de Moabite, ils vont tous y mourir. Alors, les incrédules, c'est quand même un gros morceau, je trouve. Sur 1 600 000 personnes, il va rester Josué et Caleb. Et les petits-enfants qui n'ont pas été circoncis, etc. C'est un gros morceau, je trouve. Donc, quand Jésus reviendra, que restera-t-il de nos églises? Si Dieu sait être aussi sévère? Ça, c'est la question. Les incrédules doivent être avertis dans nos églises. Les incrédules doivent être avertis par des messages sur Internet. Il est temps. Alors, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par des ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Donc, les démons sont, comme je l'ai dit la dernière fois, les trois quarts des démons révoltés ne sont pas sur terre, ils sont liés. C'est durant les tribulations, ils vont tous être déliés pour travailler, négativement bien sûr, avec l'Antichrist. Il y a des démons sur terre, mais il y en a très peu par rapport à ce qui peut être installé durant les tribulations. Alors, à tout prendre, il vaut mieux pas être dans les tribulations, les amis. Donc, ces démons, ces anges révoltés qui sont enchaînés, seront relâchés durant les 7 années de tribulation. Ensuite, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Les fouilles archéologiques nous ont prouvé qu'un météorite a explosé à 100 mètres ou 200 mètres de haut. Il y a eu 4000 degrés. On a retrouvé toutes les fondations de Sodome et Gomorre. Il y a une seule porte où l'autre se tenait pour faire justice. Dans sa sagesse, il pensait réformer une société perverse. Dans son humanisme, peut-être. Il a fallu que Dieu envoie des anges et l'arrache de la ville. Parce qu'il pensait réformer une société perverse. Opposé à Dieu. Et non, c'est pas possible. Il comptait trop sur lui-même, sur son savoir, sur son intelligence, sur son expérience. Mais la météorite a explosé quand il était assez loin, à Tsoar, à quelques kilomètres. Et sa femme, qui n'a pas voulu le suivre, qui s'est retournée, s'est trouvée vitrifiée. On a retrouvé des corps vitrifiés il y a de ça 3-4 ans dans les fouilles de Sodome et Gomorre. On a retrouvé ça en Sibérie aussi, aux États-Unis, où des météorites ont explosé. Ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas un volcan, parce que c'est 1200, 1600 degrés, pas plus. Là, on brûle, il ne reste rien, il y a des cendres. Sauf si la lave recouvre entièrement le corps, brûlé, calciné, il est conservé tel quel. Mais dans le cas où ce sont des météorites, tout... Une météorite, une étoile, c'est du plutonium en fusion, les amis. Donc, il est donc annoncé qu'un feu éternel viendra briser Satan et les hommes durant les tribulations. Ce feu sera par les météorites, par des astres. Malgré cela, ces hommes, aussi enchaînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Malgré tous ces avertissements, faits à l'époque de Moïse et à l'époque de Lot, d'Abraham, eh bien, il y a des gens qui méritent et méprisent l'autorité et injurient les gloires. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Alors, j'ai regardé une petite revue qui s'appelle Promesses. Bon, il y a de tout, c'est bien. C'est bien, c'est bien tapé, je dirais, c'est profond, c'est raisonnable, c'est sage. C'est sage, mais il faut résumer les affaires pour que ça soit clair. Jésus-Christ est-il mon maître et mon Seigneur? Ou est-ce que j'ai seulement choisi un sauveur? L'autorité et la soumission se vivent par rapport à Jésus-Christ. Cette revue, je vous la recommande, Promesse, sur l'autorité, le numéro 215. C'est pas mal, on peut prêcher dessus 5-6 fois, bon. Mais il ne faut pas louper le coche. Je pense que les choses les plus importantes arrivent à la page 15. C'est l'autorité du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, il est au ciel. Jésus-Christ est vivant, il est au milieu de nous. Puisque le ciel, c'est ni temps ni espace, il est auprès de nous, dans nos vies. Mais ce qui a l'Esprit Saint, pourquoi est-ce que je dis cela? Ben regardez les 7 églises d'Apocalypse. Les 7 églises d'Apocalypse, chaque fois il est dit ceci. C'est très très important les amis. Très important. Et c'est valable pour nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, Vous avez toutes les églises, et cette église, ça termine chaque fois comme ça. C'est donc clair. Toutes les formes d'église, obéissantes, désobéissantes, où déjà on n'a plus l'amour de Christ, là on s'est compromis dans la licence sexuelle, là où on a abandonné, on est tiède, on est mou, Jésus est derrière la porte, chaque fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Dieu aime les églises. Puisqu'il dit ça pour l'église de l'Odyssée, il dit ça pour l'église d'Éphèse. Dieu aime les églises. Ce n'est pas à nous de dire, il y a telle bonne église, il y a telle mauvaise église. Pour Dieu, tant que le jugement n'est pas opéré, Dieu a donné son sang pour toutes les églises. Et le sang de Jésus a autorité pour changer les églises. Et c'est pour ça que je dis, je dépasse cette revue, l'amour de Christ s'est exprimé dans le sang qui a coulé. Et la sainteté de Christ pour nous, l'autorité de la vie, s'est exprimée dans le sang de Christ qui a coulé pour nous. Je ne suis pas macabre en parlant du sang de Christ, parce que Jésus est vivant. Et vous savez que dans la première épître de Pierre, Pierre dit que nous sommes sous l'aspersion du sang de Christ. C'est les premiers versets. Sous l'aspersion du sang de Christ. C'est que nous en avons bien besoin de ce sang de Christ aujourd'hui. C'est lui qui a l'autorité. Il n'y a pas d'autorité du Saint-Esprit sans référence au sang qui a coulé à la croix et à la résurrection. Parce qu'aujourd'hui, il y a des modes où on parle du Saint-Esprit sans voir réellement la valeur de la croix. Alors là, on se plante joliment. Donc le Saint-Esprit, c'est celui de Christ, c'est celui de l'agneau sacrifié à la croix. C'est l'agneau qui devient le lion de Juda qui a triomphé de Satan. Dans toutes les églises, Dieu fait le même appel que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, chers amis, c'est pour ça que je vais continuer, tant que je peux le faire, à donner des messages. Quelle que soit votre situation, vous soyez dans une église, vous soyez isolé, vous soyez dans une bonne église, c'est vrai que ça existe, dans une église moyenne, une église où on est dans les coutumes, les traditions, dans le légalisme, dans le formel, bon, ouais. Peu importe, Jésus adresse la même parole que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais avec mes oreilles, vous voyez ça, est-ce que je peux entendre l'Esprit Saint? Comment donc? C'est ces oreilles-là? De quoi il s'agit? Ces deux petits morceaux de chou-fleur-là? Non, c'est les oreilles de mon cœur. C'est les yeux de mon cœur. Prenons Éphésiens. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'ouvrir ses oreilles à l'Esprit Saint. Et je dis bien, Dieu s'adresse à toutes les églises. C'est quand même formidable de voir un Dieu qui nous aime autant. Le temps du jugement n'est pas là. Il y a une certaine colère qui s'annonce, hein, par les épidémies, par la sécheresse, etc. Ça, c'est des avertissements. Parce qu'on se moque de Dieu. Ça, c'est pour les incrédules. Ça peut être encore plus dur que maintenant. Mais le jugement, c'est pas ça. Le jugement, c'est quand c'est fini. Maintenant, je te mets en enfer ou je te mets avec moi. Alors, Éphésiens. Chapitre 1, verset 15. Je pense que c'est un message que clairement Jude a pu dire à son assemblée, à son église. Puisque c'est le message du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, pensez dans Jude, vous reposant sur votre très sainte foi. Là, vous avez une image concrète de votre très sainte foi de l'épître de Jude. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, donc tous les croyants qui sont en confessé Jésus. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Vous voyez, chers amis, ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. J'ai entendu parler de votre foi, ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand je ne suis pas dans l'Esprit Saint, je m'en fous des autres églises, je m'en fous des autres chrétiens. Je vis chrétien pour moi. Ici, ce n'est pas le cas. Ça, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit Saint. Il entend parler de la foi des autres, il s'en réjouit, il s'y intéresse. Et pire que ça, il passe du temps dans la prière. Je fais mention de vous dans mes prières. La consécration à la prière de chrétiens pour les autres chrétiens qu'il ne connaît pas, pour les autres chrétiens qu'il ne verra jamais, pour les autres chrétiens qu'il ne rencontrera qu'au ciel. Vous aurez la joie de serrer Esther, Rebecca, David, Séphora dans vos bras, Abraham, Paul, Jacques, Pierre, Jean, Aristarque, Silas, Timothée. Vous aurez la joie de tous ces frères et sœurs. Pourquoi n'auriez-vous pas la joie dans la prière maintenant pour tous ceux qui sont sur terre et qui seront là que vous aurez face à face? Si nous vivons comme de manière inconsidérée, sans aimer les frères qui sont sur la terre, croyez-vous qu'on ne sera pas honteux jusqu'à terre, jusqu'on va les voir? Donc il n'est pas question de faire une séparation entre le ciel et la terre, entre notre vie dans la cité céleste et maintenant. Il est question de vivre comme on doit vivre tout le temps en Christ, dans l'Esprit Saint. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans la connexion, dans la communication, dans l'union, la communion à Dieu, nous recevons en nous. Non pas l'Esprit Saint, on l'a reçu quand on s'est converti. Nous recevons le ministère, nous le laissons faire en nous. Alors nous orientons l'Esprit Saint. Comprenez-vous? Parce que, oui, j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis allé, je suis sauvé. Mais laisser l'Esprit Saint exercer son ministère en nous, c'est ça qui est demandé aux sept églises. Que vos oreilles entendent ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Et donc c'est ici. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance, c'est-à-dire la certitude, qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Si mes frères et mes sœurs, coupez la télévision, coupez Internet, mettez-vous à genoux et priez. Les derniers temps sont là. Et vous savez quoi? Vous découvrirez les richesses de l'héritage qui vous est donné. Si un jour il n'y a plus assez d'eau pour refroidir les centrales nucléaires, on va arrêter l'électricité. S'il n'y a plus assez d'eau dans les canaux en France, l'étiage baisse, mais les turbines qui sont sous les barrages, à côté des écluses, sous les barrages, dans les canaux, ne tournent plus déjà dans l'Est. S'il y a moins de courant électrique, il y aura moins de téléphones, moins d'Internet. Peut-être qu'un jour, on va devoir simplement avoir de l'électricité pour la lumière, pour les ampoules, pour voir clair, pour lire sa Bible. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ça un jour? Très rapidement. Nous devons découvrir la gloire de notre héritage. Nous devons être penchés sur les richesses de Dieu et pas sur les atramnigos, l'affairisme de ce monde. Il est arrivé un jour, un homme dans notre église, qui fait partie de secte, il avait perdu 1,5 million d'euros à la bourse. Il avait perdu 30 chevaux pur sang arabe. Il avait perdu sa femme, puisqu'il n'y avait plus de sous. Il était tout seul depuis 17 ans à vivre dans les bois. Quand un chrétien de notre assemblée me le renseigne, eh bien, on va le chercher. Et puis, pour finir, on lui met des fenêtres et des portes à cette maison parce que la neige rentrait dedans. Il avait froid. Il avait environ 60 ans. Lui qui était si riche et qui fournissait 300 magasins, qui faisait du commerce de diamants, il était pauvre comme Job. Quelle expérience, les amis. Je lui ai donné une revue du pasteur Kremer, les yeux ouverts sur les ruses de Satan. Au bout de 3 jours, je le visite, il hurlait de rage et de colère. Je me suis assis, je prie au nom de Jésus. Une demi-heure après, il pleurait et donnait sa vie à Jésus. Il admettait sa défaite d'homme orgueilleux, de financier, d'homme d'affaires. Et savez-vous ce qu'il m'a confié ? Affairisme égale affaire du diable. Ça, c'était son leitmotiv, son slogan. Affairisme égale affaire du diable. Il s'était bien fait avoir. Mais heureusement, à 60 ans, il avait trouvé le trésor. L'Esprit Saint lui avait parlé. Il avait découvert l'héritage de Dieu. Êtes-vous tous personnellement conscients de l'héritage de Dieu ? Êtes-vous prêt à perdre tout le reste pour garder cet héritage, comme cet homme ? Ou Dieu doit-il vous forcer la main pour que vous perdiez tout et vous restiez dans cet héritage, le sien ? Comme Abraham a quitté Ur en Chaldée, un pays très riche, toute l'archéologie, toute l'histoire du Moyen-Orient prouve que des millions de gens sont partis vers Chinéar, vers Ur en Chaldée, s'installer dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate qui était hyper prospère. Et au contraire, Abraham, sa famille, partent dans l'autre sens, vers les déserts de Judée. C'est incroyable. Ils cherchaient une cité céleste, la cité de Dieu, la véritable patrie. Ils croyaient dans la résurrection. Ils croyaient dans un Dieu vrai. Ils croyaient que l'homme est pécheur et que l'homme devait se repentir et demander le pardon à Dieu. Il croyait que Dieu était vivant. Il a abandonné toutes les idoles, toutes les fortunes. Regardez combien Lot a voulu faire une foi mitigée entre celle d'Abraham et celle du monde. Et Lot, c'est bon que Dieu l'a fait sortir en urgence. Peut-être dans sa grande clémence, Dieu fera-t-il sortir beaucoup de chrétiens de nos pays d'Occident en urgence, en envoyant ses anges, en les forçant de sortir de la cité humaine, en enlevant l'Église. Éphésiens, chapitre 1, verset 18. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, c'est Aion, donc la période entre le moment où Dieu monte au ciel jusqu'à son retour. Mais encore dans les siècles à venir, le royaume de Dieu. L'autre Aion, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tous, tout en tous. Alors, chers amis, je prends cette petite revue, qui est très sympathique, très bien, c'est très enrichissant. L'autorité de l'Esprit-Saint. Ces mêmes 7 lettres d'Apocalypse, 2 et 3, se terminent par ce refrain. C'est pas un refrain, hein. C'est plus que ça, les amis. C'est pour ça que le mot refrain, des fois ça me dérange dans les revues, on est trop léger. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit-Saint dit aux églises. La parole du Fils de l'homme est transmise aux églises par la voix de l'Esprit-Saint. Voici une conclusion. La parole du Fils de l'homme est transmise aux églises par la voix de l'Esprit-Saint. Ce qui n'empêche qu'il faut lire la Bible. Parce qu'on peut tomber dans des grands égarements en disant « l'Esprit m'a parlé que ». Il faut tout confronter aux Écritures, n'est-ce pas ? 2. L'Esprit-Saint habite collectivement dans l'Église et dans chaque Église locale. Il habite collectivement dans l'église, dans chaque église locale, à condition qu'il en soit le maître. Sinon, il part. Il reviendra si on le laisse rentrer. Pensez à la gloire de l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 2, 8 à 10, où Ézéchiel voit que la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, sort du temple. Ne vivons pas de telles conditions spirituelles comme Israël les a connues. 3. Il donne des ordres à l'Église et inspire ses décisions. Lors du Concile de Jérusalem, la lettre de conclusion comporte cette expression. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Acte 15, 28. Les frères et les sœurs rassemblés avaient la conviction que l'Esprit-Saint les avait dirigés pour la décision prise. Peu de chrétiens contesteront les textes ci-dessus, mais en pratique, qu'en est-il? Avons-nous toujours conscience que nous sommes dans la maison de Dieu et pas chez nous pour faire ce qui nous semble bon? Que nos décisions doivent être guidées par l'Esprit-Saint et non lui être attribuées a posteriori. Que la Seigneurie de Christ sur son Église passe aussi par la reconnaissance de son autorité sur chacun de ses membres. Il faut dire, chers amis, que c'est par l'amour de la parole de Dieu et par la connaissance de l'autorité de la parole de Dieu qu'on connaît l'autorité de Christ aujourd'hui. Il faut l'ajouter, ça. Alors, l'autorité. L'Église est avant tout une institution divine, composée d'humains et confiée à eux. À l'autorité divine, qui reste toujours ultime, s'ajoute aussi une autorité humaine qui se décline sous trois aspects. Je ne pourrais pas m'exprimer comme ça, je vous le dis. Ultima, c'est le dessus des montagnes, les pointes. Qui arrive aux pointes des montagnes? Ça paraît bien lointain et inaccessible, à moins qu'on soit un très bon alpiniste. L'autorité de Christ, elle est dans notre cœur. Les mots sont très dangereux en français. Il faut savoir que la sémantique apporte une conception de la vie chrétienne. La force des mots apporte une notion spirituelle. Et donc, il faut savoir que c'est pas dans les cimes, dans l'ultime, que l'Esprit-Saint agit. Il est là dans le cœur comme le maître. C'est ça qu'il faut savoir. Les mots sont... c'est pas facile. Je ne critique pas la personne, mais je dis les mots sont parfois dangereux. Parce qu'ils inclinent les hommes sur la savonnette, la peau de banane. Ils glissent dans le sens où il ne faudrait pas aller. À l'autorité divine, qui reste toujours ultime, s'ajoute aussi une autorité humaine qui se décline sous trois aspects. Je pense que quand un ancien ou un pasteur se considère comme une autorité, oui, je veux bien qu'il soit une autorité dans le service, dans l'amour, dans la prière, dans la consécration en parole. Sinon, ce n'est pas une autorité, même si on l'a voté. Mes chers amis, je connais malheureusement des assemblées dans des églises où tout d'un coup, on a choisi quelqu'un comme ancien, comme responsable, il décline. Et puis on se tourne vers un autre. Oh, toi, tu le ferais bien. On vote aussi sec. Est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on a jeûné 8 jours? Est-ce qu'on a remis ça à 1 mois pour que l'Esprit-Saint nous dirige? Je vous en prie, chers amis, l'autorité humaine, elle n'existe pas dans le corps de Christ. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. C'est pour ça que le texte est parfois un petit peu dangereux. On le paye cher dans certaines églises d'avoir pris des décisions en assemblée générale qui ont un caractère démocratique comme une république. La république de Dieu n'existe pas. Je continue dans l'épître de Jude. combien, durant ce petit camp qui est ici, ô combien j'ai vu, j'ai aperçu les réunions, j'ai aperçu les conversations, j'ai vu combien de fois ils s'arrêtaient pour prier. Pourquoi ? Nous avons eu tellement d'épreuves que nos trois filles poussent tout le monde à plusieurs moments dans les préparations à s'arrêter pour prier. Parce que nous avons ramassé tellement d'attaques. Et dans cette école qu'il y a ici derrière moi, quatre pièces, combien d'enfants sont arrivés, recommandés par un psychiatre, ou un psychologue, ou par un directeur d'école parce qu'ils n'en pouvaient plus avec eux. Ils ne s'en sortaient pas. Ces enfants, comment pouvaient-ils venir ici chez nous ? Parce que les personnes qui sont responsables de l'école ont jeûné et prié. Rappelez-vous ce que Pierre, Jacques et Jean ont dit dans Acte 7. Nous devons être consacrés à la prière et à la parole de Dieu. Il faut choisir des autres hommes remplis d'Esprit Saint pour remplir les services dans l'Église. Une Église qui plaît à Dieu, c'est une Église où on est consacré. Il n'y a qu'une autorité, celle de Christ. Il n'y a pas deux autorités, celle de l'Esprit Saint et celle des hommes. Ça, c'est déjà dans le catholicisme. Ça, c'est déjà la révélation de Dieu dans la Bible et le magistère catholique. On part déjà vers le catholicisme. Si on ne fait pas attention aux mots qu'on met dans les textes, on part déjà, on prépare déjà la dérive. Qu'on voit 30 ans, ou 25 ans, ou 15 ans après. Alors, y a-t-il des autres choses dans cette épître de Jude qu'il faut dire ? Le malheur, c'est Caïn, la voix de Caïn. C'est la jalousie, c'est le meurtre. C'est l'homme de religion qui croit en Dieu par ses œuvres et qui tue celui qui croit dans le sacrifice de Christ, de l'agneau sacrifié. Abel présentait un agneau sacrifié. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans Galates chapitre 4, verset 29, comme il en était précédemment, encore aujourd'hui. Celui qui est né de la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Ça correspond à ça. Ensuite, il y a l'égarement de Balaam. Balaam n'a pas pu maudire Israël. C'est la nation sainte, précieuse à Dieu, comme la pupille de Dieu. Dieu ne peut pas maudire l'Église de Christ. Elle est fondée. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre son Église qu'il a fondée sur le rocher, c'est-à-dire sur Christ. Alors, comment peut-il s'y prendre pour déglinguer l'Église de Christ, ce Satan ? Eh bien, Balaam a trouvé l'astuce. Dans Nombre, il y a plusieurs passages où il conseille au roi Balak d'envoyer les beaux jeunes gens vers les belles jeunes filles juives et les belles jeunes filles moabites vers les... Et c'est la déglingue sexuelle, le libertinage. Qu'est-ce qu'on a depuis 60 ans dans nos églises ? Combien de divorces ? Combien de misères ? Combien de misère, les amis ? Ce n'est pas l'esprit de Balaam ? Lisez à 2e épître de Pierre au chapitre 2, c'est l'esprit de Balaam aussi. Lisez, dans Apocalypse, il y a deux églises où il y a l'esprit de Balaam. En plus, il y a l'esprit des Nicolaïtes. L'esprit des Nicolaïtes, c'est la dissociation entre la vie de l'esprit, du mental, et la vie sous la ceinture. J'ai eu quelqu'un dans l'église comme ça. Il chantait bien, il jouait de la guitare, il créait des chants, c'était un bon animateur. Et puis un jour, il me dit, je ne saurais pas me passer de femme, qu'il me confie. Ah, mais tu as déjà une femme. Je vais aller revoir ton épouse. Tu as une femme devant Dieu. Il ne dit rien, je vais revoir l'épouse qui veut bien revenir, dans cette salle même. On se voit deux fois, je dis, tu te moques d'elle, tu ne l'aimes pas. Et tu ne crains pas Dieu. Alors il me dit, oui. Je sais vivre dans la grâce et en même temps dans le libertinage. C'est ça le Nicolaïte. Croyez-vous que ça n'existe pas dans les autres églises ? Nous l'avons connu dans la nôtre. Je sais vivre dans la grâce et dans le libertinage. Comment ? Je vais vous le simplifier. Vous simplifiez. Si vous vivez dans la grâce, oui, mais vous regardez des choses porno à la télévision, sur Internet, tout seul. Ou sur le téléphone, vous finirez par avoir des aventures sexuelles. Vous aurez des rendez-vous sur le smartphone, sur l'Internet, ça pleut. Et puis le diable en envoie. Alors, c'est l'esprit de Balaam. Il est bien là. Mon œil doit être pur, sinon il vaudrait mieux le jeter. Ma main doit être pure, sinon il vaudrait mieux la couper. Comprenez ce que Jésus a voulu dire. Donc, l'égarement de Balaam, ben c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Il faut rechercher la sainteté. Et c'est pour ça que notre cher Jude, il dit ceci, au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même, c'est un vous, c'est la communauté, sur votre très sainte foi. » Là, ce n'est pas sur la foi. Très sainte foi. Il n'y a ni l'esprit de Caïn, ni l'esprit de Balaam. Ensuite, il y a encore quelque chose, ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est quoi la révolte de Corée? Eh bien, c'est la République. On demande à Moïse et à Aaron de ne plus rien prophétiser, parce que tout le monde peut prophétiser, tout le monde est sous l'autorité de Dieu, tout le monde est le peuple sacré de Dieu, donc tout le monde a quelque chose à dire. Donc, en assemblée générale de l'Église, ou dans des réunions, ça y est. C'est la révolte de Corée ou pas chez vous, dans vos églises, dans votre cœur? Longtemps, j'ai dû dire à des amis chrétiens, il n'y a pas de CR, de chrétiens républicains. Il y a des chrétiens, point barre. Ça a été un dur combat pour moi à mener à de bons amis qui acceptent Jésus. Mais ils avaient ça inscrit en eux, CR, chrétiens républicains. Ah non, pas avec le vrai Jésus de Nazareth. Alors, continuons. Nous avons chez nous, dans toutes nos églises, ça existe, nous avons des gens qui amènent des tourments. Verset 12. Et il faut bien faire avec. Ce sont des écueils dans vos agapes, donc les réunions chrétiennes, les assemblées, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. C'est pour ça, chers amis, que nous avons pris l'habitude, nous, de faire des repas fraternels où nous jeûnons. Parce que le tube digestif et le ventre, c'est très actif. Et quand c'est en train de travailler, le cerveau, il ne fonctionne pas beaucoup. En plus, l'Esprit Saint n'a guère de place. Donc, nous avons pris l'habitude, lorsque nous faisons chaque mois un repas, une réunion fraternelle, c'est plus repas fraternel pour nous, c'est jeûne et prière. Et quand nous faisons une retraite, c'est jeûne et prière. Et c'est pas plus mal. C'est même beaucoup mieux. On n'a pas besoin de mettre la table, on n'a pas besoin de préparer à manger, on ne fait pas de vaisselle, on a plus de temps pour se parler, pour prier, pour louer le Seigneur et pour lire la Bible. Et on retourne en forme. Alors, chers amis, je voudrais bien vous fassiez attention à ce verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se rebaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits deux fois morts, etc. Si on ne sait pas se passer de manger une journée dans une église, ça devient grave, voire deux. Et si pour quelqu'un qui a une fonction d'ancien ou d'évangéliste ou de pasteur, il ne sait pas se passer 3-4 jours de manger de temps en temps devant des engagements précis, devant des attaques qui ont lieu sur l'église, il ne sait pas, mais il ne peut pas espérer une bonne victoire dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres qu'il doit jeûner. C'est parce qu'il s'humilie devant le Seigneur pour qu'il vienne au secours de l'assemblée, de l'église et de lui-même ou d'elle-même. Donc, vous voyez bien ici, c'est très, très intéressant d'analyser les choses. Je ne dis pas que j'ai l'autorité de tout interpréter dans cet épître, mais je vous partage mon expérience. Et c'est une expérience maintenant que nous avons, laquelle nous avons goûté en Église, et nous avons jeûné et prié sans aucun esprit de frustré. On se rit de ne pas manger. On est très heureux sans ça. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch, un homme qui est parti au ciel, qui n'est pas mort, tout comme Élie et Moïse, Élie et Jésus-Christ, pas Moïse. Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc, le jugement se porte sur des impies. Alors, la question doit se poser, c'est les autres dehors, les impies, ou c'est ceux qui ont le nom de Dieu dans la bouche et qui ne vivent pas dans la volonté de Dieu? Matthieu 7, 21, « Vous m'avez dit, Seigneur, Seigneur, mais arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Car vous n'avez pas fait volonté de mon Père, vous avez vécu dans l'iniquité. » Chers amis, il ne faut jamais imaginer que le mal est autre part que dans mon cœur. Mon ennemi, c'est mon péché. Ce n'est pas les autres dehors. Et donc, quand dans une assemblée, on se figure qu'on est en ordre avec Dieu et qu'on voit le péché dehors, on a tout raté. La repentance est journalière. Et d'autre part, plus que la repentance, la confiance dans le pardon de Christ par son sang à la croix. Une totale confiance. Et le désir de tout se faire laver tous les jours sous la bannière de Christ, sous la croix de Christ. Se faire laver tous les jours de tout ce qui vient toujours nous salir de nous-mêmes en nous-mêmes. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit Saint qui vivifie. Jean, chapitre 6, verset 63 ou 65. Alors, voyez bien que les impies, moi je ne les vois pas dehors. Je les vois, parfois je me regarde dans la glace, ça arrive que je me considère comme impie. Chers amis, considérons que Jésus a aimé l'Église vraiment, absolument, et qu'aujourd'hui il l'aime, et qu'il laisse de telles épîtres par amour pour nous. Autrement, ces livres-là, ces épîtres seraient disparus. Quand, à Muratori, dans le nord de l'Italie, à la fin du IIe siècle, des centaines de responsables d'Église se sont réunis en disant « Il faut qu'on sache quels sont les bons livres ou les mauvais, parce qu'il y en a de toutes les sortes, hein. Le livre d'Enoch, etc., l'évangile de Thomas, le proto-évangile, etc. Il y en avait plein de livres sur la foi chrétienne. Il y avait tout dans toutes les sauces. Donc tout s'était glissé dans les églises. Verset 4. C'était une véritable folie. Et ils se sont réunis. Et le canon de Muratori, ça fait référence au canon égyptien, c'est un roseau de 99 cm. C'était la mesure de l'époque pour l'Empire. Et donc, Conan de Muratori a fixé quels sont les livres inspirés. Et c'est cela que Dieu a gardé. Alors, c'est quoi un livre inspiré? C'est un livre qui dit que Dieu est saint et parfait, qu'en lui, il n'y a point de mal. C'est un livre inspiré. Il dit que l'homme est aimé de Dieu, mais que l'homme s'est révolté et qu'il doit se repentir. C'est un livre qui dit que le pardon de Dieu est acquis à celui qui demande pardon. C'est un livre qui dit que c'est le Messie à la croix, sacrifié sur le mont Morija selon les Écritures et ressuscité selon les Écritures, vivant au siècle des siècles, qui est la clé de notre vie éternelle. Et c'est un livre qui dit que l'Esprit Saint de Christ nous rappelle sans cesse les paroles de Christ, nous révèle sans cesse qui est Christ, nous renseigne sans cesse quelle est la volonté de Dieu en Christ. Il n'y a pas d'autre Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il révèle encore? Que l'Église est l'épouse de Christ, qu'elle est aimée de Christ et elle sera gardée jusqu'à la fin des temps, malgré toutes ses imperfections. Et qu'il lavera sa tunique, il mettra une tunique parfaite. Oui, nous sommes imparfaits, nous sommes des une épouse bien parfois lamentable, mais la grande gloire de Dieu, c'est de nous mettre une nouvelle tunique. Christ achèvera en nous ce qu'il a commencé. C'est pour ça que j'achève ce commentaire de l'épître de Jude en disant ceci. Christ est fidèle, il achèvera en nous ce qu'il a commencé. Dites-lui dans la prière, passez du temps à genoux, à terre, à table. Dites-lui, mais dites-lui 200 fois, 1000 fois sur un mois. Vous verrez, votre cœur sera inondé de grâce, d'un immense bienfait, la paix de Dieu, la paix de son amour. Amen.